day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Et oui, c'est votre émission, c'est Bang Geek Mafia.
Salut Seb.
Salut Seb. Alors on fait un coucou à Romain.
On fait un coucou à Romain et à Pablo.
Pablo aussi, bah oui, Romain, Pablo, qui nous ont traîtreusement et lâcheusement abandonnés pour
ouais,
ce soir.
Mais c'est les vacances.
Mais c'est les vacances.
Et en vacances, tout est permis.
Et bien sûr, tout à fait.
On fait aussi un bisou à Eric et Marie qui nous écoutent.
Alors, bah, bisous Eric, bisous Marie, puis à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos auditeurs et auditrices.
Alors ce soir, on va parler comme d'habitude de films, de séries, de livres, de BD, de musique. Tout ce qu'on aime, on est bien dans Monde Geek 9.
Ça c'est sûr, ça me fait du bien.
101.5.
La radio qui fait le point.
Alors on va démarrer avec un morceau de musique. Seb, qu'as-tu dans ton panier?
Oh bah dans mon panier j'ai un petit morceau. Alors puisque le thème, on va peut-être donner le thème.
Ah oui, tu as raison, puisque les émissions sont thématiques depuis la rentrée.
Tout à fait, tout à fait. Alors le thème d'aujourd'hui c'est Made in France.
Made in France donc, bah tout ce qu'on aime en France.
Bah oui.
Les films qu'on a vus récemment, les séries, la musique française. Les livres, les BD. Il y a tellement de choses à dire, oui. On n'aura pas assez d'une heure.
Et puis, et encore une fois, là, on se dit oh, bah ouais, mais ça va être que la production française, ça va pas être super. Ben si, parce qu'il y a des trucs.
Détrompez-vous. On a fait une petite sélection.
Donc voilà, bah, on va commencer par un petit groupe.
Un classique.
Un classique maintenant, un petit groupe d'originaire de Brest.
Ça va faire plaisir à Anaïs, tiens, qu'on salue.
Ouais, coucou Anaïs. Et donc, bah, on va écouter Matmata Lambe Andro.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Viens donc faire un tour à Lambé.
Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à Lambé.
Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé.
Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé.
Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé.
Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé.
Y'a du chouchène à volonté, viens donc faire un tour à Lambé.
Y'a du chouchène à volonté.
Si t'as rien trop
Alors, on va commencer l'émission en parlant de cinéma. Alors, on va pas parler enfin, en tout cas, pour ma part, je ne vais pas parler de cinéma classique, de grands classiques ce soir, mais des deux derniers films français que j'ai vus.
Bien sûr.
Alors, parce que j'ai déjà parlé de Enfant phare, j'ai déjà parlé de Vingt Dieu, donc je vais pas en reparler, mais avec Florence, on a vu deux films français récemment, et on avait envie de partager ça parce que c'était pas mal du tout. Alors, le premier, c'est Rosalie. Un drame historique hein, qui dure 1h55 avec des acteurs plutôt sympas. Alors Nadia Tereskevitch, Benoît Magimel, Juliette Armanet, Benjamin Biolay. De quoi ça parle Rosalie ? Eh bien, c'est assez étonnant comme histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme. Donc, oui. Donc, qui s'appelle Rosalie, là, il n'y a pas de problème, c'est le titre du film, qui vit dans la France des années 1870. Voilà.
D'accord.
Mais c'est pas une jeune femme comme les autres, parce qu'elle cache un secret. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. Et là, oui, mais c'est pas du tout drôle comme film.
Non, parce dit comme ça, oui, effectivement, ça peut faire rire, mais. Bon.
C'est un drame, en fait. De peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Jusqu'au jour où Abel, un tenancier de café, donc c'est joué par Benoît Magimel, il est acculé par les dettes. Et donc il l'épouse pour sa dot, en fait. Mais sans savoir son secret. Et Rosalie, elle veut être regardée comme une femme comme les autres, malgré sa différence. Mais un jour, elle comprend qu'elle ne peut plus ou elle ne veut plus se cacher. Elle laisse pousser sa barbe.
Et du coup, Benoît fait l'attraction de la femme à barbe pour gagner de l'argent.
Pas vraiment. Et donc elle se dit en se laissant pousser la barbe qu'elle va se libérer et elle veut que son mari Abel l'aime comme elle est et c'est difficile pourquoi parce que les autres ils vont vouloir la réduire à un monstre un monstre de foire comme tu dis
comme je disais
donc la question c'est Abel sera-t-il capable de l'aimer survivra-t-elle à la cruauté des autres voilà alors je vous dis je vous raconte pas tout je vous racontais que le début du film mais vraiment on était agréablement surpris parce que on s'est dit au départ ça va être très triste ou ça va être violent ou voilà et en fait c'est un beau film c'est une ode à la différence et à l'acceptation de soi donc c'est le second long métrage de Stéphanie Di Giusto et donc on est dans la Bretagne rurale hein, de l'après-guerre franco-prussienne à l'aube de la Troisième République voilà et cette jeune femme elle a un destin hors du commun et donc c'est une histoire vraie hein. Oui j'ai oublié de vous le dire oui c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, c'est assez important.
Un petit point de détail.
Donc sa maladie, ça s'appelle l'hirsutisme. Et donc elle tente de vivre une existence de femme épanouie. Dans ce petit village, c'est pas facile. Voilà. Alors, on pourrait dire que le film, il est un peu académique, dans le sens où on a une histoire assez... Alors l'histoire est pas classique, mais la réalisation est assez classique. Mais le portrait de cette femme est vraiment moderne, en fait. Voilà. Et puis il y a une super prestation de l'actrice principale, Nadia Tereskevitch. Elle est vraiment touchante. Émouvante dans ce rôle, donc et Benoît Magimel aussi finalement. Donc voilà, je vous le conseille. C'est pas mal du tout. Ça s'appelle tout simplement Rosalie. Voilà.
Et ben ça donne envie quand même. Hein.
Ah ben merci.
Ça donne envie parce que effectivement on pourrait partir. Bah, moi je suis parti sur le gros cliché la femme à barbe, comme on peut dire.
Oui mais c'est ça. Mais c'est vrai.
En plus à cette période-là, c'était vraiment des attractions de foire qui se faisaient.
Mais elle est tentée à un moment. Je veux pas tout dire l'histoire, mais elle est tentée à un moment de partir avec un cirque. Mais bon, je peux pas tout vous raconter.
Ah oui, d'accord.
Alors le deuxième film français qu'on a vu récemment s'appelle Le Tableau Volé, hein, 2024. C'est un drame. Alors il y a un peu plus d'humour, mais c'est un drame. Alors c'est bien, c'est un film qui dure 1h31. C'est pas trop long. Moi j'aime bien quand c'est pas trop long.
C'est pas trop long, c'est bien.
Alors c'est avec Alex Lutz, tu vois, qu'on a vu souvent dans des rôles comiques.
Oui.
Léa Drucker, Alain Chamfort, Nora Hamzaoui. Alors de quoi ça parle Le Tableau Volé ? Est-ce que ça vous
d'un tableau qui est volé.
Eh ben alors pas vraiment. Bon, je dirais que c'est plutôt une comédie dramatique, ouais, de Pascal Bonitzer, un réalisateur un peu connu. Alors c'est l'histoire d'André Masson, donc qui est joué par Alex Lutz. André Masson, il est commissaire priseur dans une célèbre maison de vente qui s'appelle Scotties, bon, dans le film.
D'accord.
Et un jour, il reçoit un courrier selon lequel une toile d'Egon Schiele, un grand peintre allemand, Egon Schiele, aurait été découverte à Mulhouse chez un jeune ouvrier. Bizarre quand même. Donc là, il est très sceptique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend sur place et il doit se rendre à l'évidence. Le tableau est authentique. C'est un chef-d'œuvre disparu depuis 1939. Pourquoi? Parce qu'il a été
volé.
Spolié. Voilà,
il
exactement.
A été volé.
C'est ça le tableau volé. En fait, c'est qu'il a été spolié par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, André, il voit dans cet événement le sommet de sa carrière. parce que ça va le rendre célèbre, cette découverte. Ah oui. Mais c'est aussi le début d'un combat qui pourrait mettre en péril sa carrière. Alors, je peux pas trop vous dire. Heureusement, il va être aidé par son ex-épouse et collègue Bertina, donc jouée par Léa Drucker, et par sa fantasque stagiaire Aurore. Donc, bah c'est sympa. C'est, alors, j'ai trouvé ça un peu moins bien que Rosalie, parce qu'on n'est pas transporté de la même manière par le film. Mais bon, on est quand même un peu, on est happé par cette histoire. Ça nous parle, voilà, de tableaux. C'est aussi une histoire vraie. C'est fou. On a vu deux histoires. Finalement, c'est deux films tirés d'histoires vraies. Donc, ça nous parle de peinture, mais aussi en tant que de peinture en tant que marché, marché de l'art.
Tu vois. Marché de l'art, et puis tout ce problème aussi en même temps des spoliations justement, ouais, qui ont été faites dans les années 40. Et d'ailleurs, il y a pas mal de les musées nationaux ont l'obligation de garder ces
alors,
tableaux.
À Angers, oui, au musée des Beaux-Arts, effectivement, on a des œuvres MNR, ça s'appelle. Oui. Qui sont des œuvres spoliées dont on cherche les propriétaires, ou en tout cas les descendants des propriétaires.
Les descendants des propriétaires, et on leur remet.
Ah oui, des tableaux sont rendus régulièrement. Hein. Et d'ailleurs, ça parle de ça dans le film aussi.
Oui, hein, bah oui.
Parce qu'ils vont retrouver la famille, etc. Et donc, on va dire que c'est une comédie grinçante, voilà, qui nous plonge dans l'univers du marché de l'art international, et où s'entremêlent donc l'histoire avec un grand H, les enjeux financiers, les experts, les mensonges, les trahisons, voilà. Un peu d'amour quand même. Voilà, bref.
Amour, gloire et bloté.
Donc voilà. Donc
c'est la bloté.
La bloté, j'adore. Le tableau volé, donc, de Pascal Bonitza. Deuxième film conseillé ce soir.
Eh bien, c'est bien tout ça.
Mais oui, c'est sympa.
Ah, c'est
aller
sympa.
Au cinéma.
Oh, bah, il faut aller au cinéma. Et puis, bah, si vous n'allez pas au cinéma, vous avez toujours la possibilité de regarder de temps en temps. Quand même, maintenant, on a quand même.
Oui, des plateformes.
Des plateformes.
Oui, bien sûr.
Et puis, bah, ça nous permet quand même de découvrir aussi des films français, là, puisqu'on parlait des films français. Moi, dernièrement, un film. Alors, on part sur de l'humour, hein, pas ouais, de l'humour français, mais c'est pas l'humour graveleux des années 80, hein, quand même, où c'était bien lourdingue, hein, quand même, il faut reconnaître. Vous avez les films avec la bande de Philippe Lachaud, là, justement.
Ah, la bande à Fifi.
La bande à Fifi. Où là, bah, écoutez, vous passez un moment, c'est marrant aussi, il y a tout plein de clips.
Mais oui, alors moi j'avais vu Babysitter.
Babysitter, oui. Bah, moi j'ai vu là dernièrement, je suis tombé sur 3 jours max, qui est la suite de 30 jours max aussi en même temps.
Et bon, alors, en fait, je me suis trompé, c'est Babysitting.
Babysitting, oui.
Enfin bref, 3 jours max.
3 jours max, Babysitting.
Alors, ça parle de quoi, 3 jours max?
Ah ben, 3 jours max, c'est pas compliqué, le pitch. Donc, on suit les aventures du policier qui est donc apparu dans le premier 3 jours max. Mmh. Là, cette fois-ci, il apprend que sa mamie a été enlevée par un cartel de la drogue. Et donc, il doit retrouver absolument 2 émeraudes pour pouvoir sauver sa mamie, hein. Donc,
d'accord.
Donc voilà. Donc à partir de là.
Donc il a 3 jours.
Ouais, il a 3
max.
Jours. Max. Sauf qu'il s'appelle pas Max. C'est pas Max la menace.
Non, c'est au maximum 3 jours.
C'est au maximum 3 jours. Et le mec, c'est un gaffeur pas possible, quoi. C'est un abruti pas possible. Et bah, il arrive.
Donc c'est la suite de 30 jours max.
Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc voilà.
Bah, donc toujours avec la même bande, Tarek Boudali, Vanessa Guide, Philippe Lachaud.
Et il y a plein de petits clins d'œil aussi en même temps sur des films, bah, justement qu'on a aimé. Pour pas trop spolier quand même, on peut quand même le dire. À un moment, vous aurez donc un personnage, donc une jeune femme blonde, habillée de rouge avec des souliers pointus, comme on peut dire, mais gainé un petit peu, qui est vraiment une tueuse, qui fait penser à un film dont le film commence par un T, Terminator.
Ah, oh, d'accord.
Terminator 3.
Ah oui.
Je sais pas si tu te souviens dans le Terminator 3.
Ah oui,
3.
Dans la 3. Ah oui, c'est une femme blonde avec un.
Voilà.
Oui,
et bah, c'est
j'avais
bizarre.
Oublié.
Et bah oui, bah tu vois, comme quoi.
En même temps, Terminator 3, c'est peut-être pas le plus connu.
C'est pas le plus connu, mais bon, enfin bref.
Il y a des références.
Il y a des références. Il y a plein de références à l'intérieur, et donc cool. On passe un petit moment sympathique aussi en même temps.
Eh bah, ben super, merci Sam.
Ben voilà. On va écouter un petit morceau de musique.
Ah, très bien.
Ah, je sais que tu l'attends avec impatience. Bah
c'est toi qui... Qu'est-ce que c'est que cet accent?
Oh, je sais pas.
C'est toi qui as choisi Gojira, ça.
Oui,
et moi,
bah,
j'ai choisi le titre.
T'as choisi le titre. Moi, j'ai choisi le groupe, voilà. Parce que là, Made in France, quand même.
Ah bah, on est comme ça.
On est comme ça. Et puis, franchement, on va faire un petit cocorico quand même, parce que Gojira, ouais, il avait quand même une reconnaissance, cette fois-ci, internationale.
Il y a eu
Un Grammy Awards quand même. Donc, c'est quand même pas rien, hein. C'est un petit groupe français, quand
des
même.
Landes.
Hein. De bien de chez nous, comme on peut dire. Tu vois, comme quoi je cause bien la France.
Oui, c'est vrai.
Hein. Et donc, on va écouter Gojira dans le morceau
Silvera. Dans Mode Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Et oui, ça fait du bien, un petit peu.
Ça fait du bien, tout ça.
Ça plaît à nos auditeurs, à nos auditrices.
Ah,
on salue Romain écoutant. Qui est en Espagne et qui va à un open mic.
Ouais. Hola, Romain.
Série. Bien sûr, après les films.
Oui.
Je voulais vous parler de Bref. Et oui, vous vous souvenez tous de Bref, hein, cette shortcom, comme on dit aujourd'hui, de Kian Kojandi et Bruno Muchiot. Alors, vous en avez sûrement entendu parler parce que là, ça fait le buzz.
Oui.
Et je voulais quand même revenir sur cette saison 1 qui avait été diffusée dans le grand journal de Canal+, entre 2011 et 2012. Déjà, ça date un peu.
Déjà.
Donc, c'était composé de plusieurs saisons, de 40 épisodes, hein. Donc, c'était vraiment des petites pastilles comme ça et qui avaient eu un énorme succès. Et donc, c'est l'histoire d'un personnage qui n'a pas de nom, il s'appelle Je. Le narrateur, qui est un jeune homme trentenaire qui vit à Paris. Il est désigné par ce pronom Je. Il est chômeur, célibataire, il a une vie banale. Sa vie manque un peu d'intérêt jusqu'à ce qu'il rencontre une fille qui est désignée par cette fille au cours d'une soirée. Et puis il est charmé par son regard, etc. Il pense à elle, il cherche à la revoir. Voilà. Et puis après, ça parle aussi beaucoup de son travail. Il cherche du boulot, il passe des entretiens d'embauche, il multiplie les soirées. Voilà, il est encouragé par Kairon, son ami. C'était vraiment l'histoire d'un trentenaire des années 2010, cette histoire de Bref. Donc énorme succès et beaucoup de petits épisodes avec des acteurs qui sont devenus connus depuis, Blanche Gardin, Baptiste Le Caplain, etc., etc. Alors là, on vient de découvrir la saison 2 de Bref. Ça s'appelle Bref 2. Du coup.
Bref 2, oui, et qui doit être diffusé sur Disney+.
Sur Disney+, exactement. Et alors, on voulait vous prévenir, le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube.
Ben oui, mais ça, pour aller chez le client.
Ils sont malins parce qu'en plus, j'ai regardé avec Florence, il est vachement bien. Alors là, c'est plus du tout le même format. On aura 6 épisodes d'une trentaine de minutes, 40 minutes, quoi. 6 épisodes de 40 minutes.
Ils ont augmenté la durée, quoi, en clair.
Ah, complètement. Et ils ont réduit le nombre d'épisodes parce que la saison précédente, c'était un format shortcom, c'était 82 épisodes de 2 minutes.
D'accord.
Donc c'était, voilà. Là, cette saison, elle est composée de 6 épisodes d'une durée de 30 à 40 minutes, comme je vous disais. Donc toujours scénarisé par Kian Kojandi et Bruno Muchiot. C'est la suite de la saison 1, diffusée donc il y a 13 ans. Et là, évidemment, le personnage principal, il a vieilli. Il a 40 ans. Et oui, il est passé.
Il a 10 ans de plus.
Il a 10 ans de plus, exactement. La distribution. Bon, on retrouve toujours Kian Kojandi qui joue Je.
Il a pas changé.
Et puis Baptiste Le Caplain, Bérangère Krief, ça c'est les ceux qui étaient déjà présents dans les saisons précédentes, dans la saison 1. Et par contre, des nouveaux personnages, par exemple Laura Felpin qui joue Billy, sa coloc en fait maintenant. Il y a Jean-Paul Rouve, Jean-Jacques le voisin.
Ah.
Voilà. Et donc il va y avoir Alexandre Astier, Dora Tillier. Et puis des apparitions. Il y a toujours des apparitions de Jonathan Cohen, voilà. Bien sûr, Grégoire Ludig, Orelsan, Henri Gringe. Enfin bref, voilà. J'ai vu le premier épisode et honnêtement, c'est pas mal du tout. En fait, c'est vachement bien. D'ailleurs, elle est très très appréciée. Les critiques sont excellentes. Hein, elle est très bien accueillie. Elle devient la série la mieux notée là, sur Halluciné, elle devance même, alors attention, on va rigoler, mais elle attention. Devance même Game of Thrones et Breaking Bad.
Oh là 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 là, là. Alors là, autant dire que c'est du lourd là.
Non, mais ces séries-là, Breaking Bad et Game of Thrones, elles ont beaucoup plus de votes. Et là, c'est juste que la série vient d'arriver, donc elle est populaire.
Bien sûr, elle est populaire tout simplement.
Voilà. Et donc une saison 3 est envisagée, mais pour l'instant, essayez de regarder si vous aviez aimé Bref saison 1, vous allez aimer Bref saison 2, sachant que le format est différent, que les personnages ont vieilli, donc ils n'ont pas exactement les mêmes problématiques. Mais on voit que le personnage principal, quand même, lui, il aimerait bien se sortir un peu de son, il tourne en rond en fait de son cercle vicieux, de parce qu'il est toujours célibataire, sans emploi, etc.
Et 10 ans après, ça peut changer quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, il voit qu'autour de lui, les gens ont évolué. Ils ont des enfants.
Lui, non.
Voilà.
Ah, c'est ballot ça.
Et donc ça, c'est le premier épisode qui est vachement bien réalisé. Faut aussi dire ça. C'est que bref, c'est quand même très très bien fait visuellement. Il y a quand même beaucoup de post-production, il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées en post-production, mais c'est toujours réussi. Puis il y a ce ton quoi, qui est rapide. Enfin, on s'ennuie pas du tout. Et voilà. Donc, je vous conseille la saison 2 de Bref. C'est sur Disney+, mais vous pouvez voir le premier épisode gratuitement sur YouTube. Voilà.
Alors c'est bien parce que là, tu me permets de faire la transition à moi avec une série que j'adore, qui est terminé maintenant, hein, puisque on est parti sur des films. D'ailleurs, le film numéro 2, le tournage vient d'être terminé, donc
le montage. Kaamelott.
Oui, Kaamelott. Donc oui, effectivement, ça c'est la série. C'est une petite Madeleine de Proust aussi en même temps, et c'est vrai qu'elle tourne encore. On la trouve encore une.
Ça passe sur M6 ou
Non, pas sur M6.
Ah non, pardon.
Pas sur M6, c'est sur la chaîne 23 ou 22. Enfin bref, c'est une des chaînes du groupe, hein, de toute façon. D'accord. Et c'est vrai que là, c'est une série qui a commencé aussi comme un peu comme Bref, par des petites
des petits épisodes.
Hein. Et puis ça a pris de l'importance, ça s'est étoffé. On arrive quand même sur la saison 6. Et moi, j'avoue que la saison 6, c'est quand même ma préférée.
À Rome.
Parce que là, il y a beaucoup de profondeur aussi en même temps.
Ah oui, c'est plus sombre.
C'est plus sombre.
C'est moins drôle. Ouais.
C'est moins drôle. Mais il y a toujours cette petite pointe d'humour quand même.
Oui, bien sûr. Parce que les acteurs,
les acteurs, ils sont excellents. Les dialogues, autant dire, tu parlais d'Alexandre Astier. Donc, c'est lui, le réalisateur, le scénariste. C'est vrai qu'il a une verve, une écriture qui est formidable, quoi, franchement.
Et puis donc, il est passé de petits épisodes à des grands épisodes aussi, et puis à des films.
Et à des films. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on peut dire. Donc voilà, donc ça, encore une fois, c'est une série française, mais c'est une bonne série française aussi. Hein.
Ouais, c'est clair.
Non,
mais on a du choix.
On a du choix.
Et donc, on a du choix aussi en musique.
Oui. Alors on va renaître puisque on parlait un peu de
belle transition,
hein, Kaamelott, monde fantastique, et là on va partir sur un groupe au nom fantastique, Phoenix.
Oui, c'est Florence qui nous a demandé ou proposé. Et mais moi je suis d'accord. J'aime beaucoup ce groupe.
Et on va écouter donc
Phoenix
Girlfriends
dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5 la radio qui fait le point. Eh ben, on était tellement bien. Que je l'ai même pas entendu passer.
Ah, c'était chouette, hein.
Ah, c'était
Phoenix,
chouette.
C'est un super groupe.
Ah ouais, ouais, super.
Groupe français, donc, aussi connu à l'international.
Eh ben, voilà.
Alors, c'est l'heure de la BD des livres, hein. C'est le moment littéraire. Alors, tout ça pour vous dire que...
Maman disait toujours...
la vie, c'est comme une boîte de chocolat.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et la bande dessinée, c'est exactement pareil.
Exactement, sa mère. Merci, Seb. Alors, on est allé à Angoulême. À Angoulême, il y a le musée de la bande dessinée. Et c'est vraiment génial. J'étais jamais allé. Et ça vaut le coup, vraiment le coup. Alors déjà, il y a une expo permanente qui est vraiment sympa parce que qui retrace toute l'histoire de la BD. Et en ce moment, il y a deux expos temporaires. Il y a une première expo temporaire sur l'univers Marvel. Donc là, si vous avez des enfants ou si vous aimez les super-héros, c'est génial. Il y a tous les comics, il y a tous les super-héros et les super-vilains et tout ça. Et puis, il y a une expo, mais vraiment très très chouette, sur la science-fiction dans la bande dessinée. Et ça, c'est un peu connu, mais pas tant que ça, finalement, la SF en BD.
C'est très peu connu, hein,
ouais. Alors qu'il y a des BD et des artistes incroyables. Il y a Druillet, il y a Moebius. Enfin, on en connaît plein. Et en fait, c'était l'occasion pour nous, là, de découvrir vraiment des choses incroyables. Alors, tout ça pour vous parler d'une BD. Mais je voulais quand même démarrer en vous incitant à aller à Angoulême. Parce que c'est vraiment la nouvelle science-fiction, quoi. C'est une découverte, c'est d'une richesse incroyable. Alors, il y a différents types de science-fiction, évidemment, Seb, tu le sais. Oui. Hein, il y a le space opéra, bien sûr avec les vaisseaux spatiaux. Il y a l'anticipation, il y a la dystopie, il y a l'Uchronie, hein, tout ça, on en a déjà parlé mille fois. Voilà. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Il y a les Watchmen, enfin, il y a tout ça, bref. Et puis, on a une petite découverte, voilà. Au détour de cette expo, souvenir de l'Empire de l'Atome de Smolderen et Cléris. Alors, c'est franco-belge, hein. C'est pas purement 100% made in France, mais c'est made in France et Belgique. Et ça, c'est super. Chez Dargaud, souvenir de l'Empire de l'Atome. Alors, de quoi ça parle? On est en 1953. La Terre est entrée dans l'âge de l'atome. Mais un homme s'interroge sur la civilisation qui l'entoure. Cet homme, c'est Paul, un écrivain de science-fiction qui, depuis son enfance, vit en contact télépathique avec le héros d'une épopée galactique située dans un lointain futur.
Oh, yeah, yeah.
Donc on a un personnage qui est en contact, voilà, avec un héros du futur, en gros. Alors, le cas de Paul, il devient célèbre à la suite d'un article dans la presse. Et Gibbon Zelbub. Alors tout de suite, ça vous fait penser à Zorglub, hein, forcément. dans Spirou.
Ben oui, tout à fait. Là, c'est honnêtement.
Ce méchant personnage, consultant bien connu du Pentagone et de l'industrie américaine, il commence alors à s'intéresser à Paul et à son contact télépathique là, avec le futur. Et donc, dans un laboratoire du Vermont, Paul va subir une expérience hypnotique qui lui fera commettre l'irréparable et briser l'honneur de son ami Zartan, le plus grand chef militaire de l'histoire des étoiles.
Wow.
Alors honnêtement,
ça fait envie.
C'est super, et j'aime beaucoup le dessin. Alors on est dans un style graphique très coloré pour de la science-fiction, avec des personnages qui font un peu vintage, un peu années 50, c'est volontaire parce que ça se passe dans les années 50-60. Voilà, donc on retrouve des formes comme ça, typiques des années 50, des années 60, avec des fusées.
Ben, les fusées font penser à
Tintin.
À Tintin.
Mais carrément.
Ouais, à Buck Rogers.
Ouais, exactement. Ça, quoi. Oui, alors il parle de Buck Rogers d'ailleurs.
Oui, bah oui.
Et vraiment, c'est assez foufou. Ça part un peu dans tous les sens. Parce que on est à la fois dans le monde réel, mais dans le futur, avec de l'hypnose, avec de la trahison des méchants. Enfin, et surtout de la science, parce que ça parle de l'atome, du nucléaire. Et vraiment, c'est une découverte, c'est complètement original. Voilà. Et donc, je le conseille, Souvenir de l'Empire de l'Atome de Smolderen et Cléris aux éditions Dargaud.
Ben oui, très bien.
Et je vous conseille encore d'aller à Angoulême.
Au musée de la BD.
Autre BD d'ailleurs, puisqu'on parle d'Angoulême, ouais, qui a eu le prix du festival, c'est Deux filles nues, oui, de Luz. Écoute, moi je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé cette BD. Deux filles nues, ça parle d'un tableau.
Encore.
Ouais. Non mais c'est vrai que en fait je me rends compte qu'on se rendait compte que il y a des thèmes comme ça qui sont des thèmes un peu d'actualité
dans l'air du temps et du coup on va les retrouver quoi finalement.
Donc Deux filles nues, Fauve d'or 2025, à Angoulême. Donc ça veut dire meilleur album, hein, au Festival international de la BD d'Angoulême. De Luz qui écrivait et qui dessinait surtout dans Charlie Hebdo.
Oui.
Voilà. Et là, il nous fait une BD passionnante sur l'histoire d'Otto Müller, un peintre juif moderne. Et quand on commence à lire, on peut plus s'arrêter. C'est vraiment. Moi j'ai tout aimé. En fait, je sais pas quoi vous dire. C'est un roman graphique à lire absolument. C'est beau, c'est magnifique.
Voilà, il faut le lire.
C'est le destin d'un tableau de sa conception à son accrochage. Donc de 1919 à 2001. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais divulgacher.
Mais ne divulgage pas tout ça.
Surtout que je veux vous parler d'un livre.
Ah, tu veux parler d'un livre. Allez,
Gaël Faye, oui, rapidement. Jacaranda, roman chez Grasset. Je l'ai pas encore lu. Florence l'a lu, mais je l'ai pas encore lu. C'est la suite de Petit Pays. Donc Gaël Faye, il est auteur, compositeur, interprète, mais il est l'auteur d'un roman phénomène, Petit Pays, en 2016, qui a été couronné par 13 prix, dont le Goncourt des lycéens. Et donc, c'est un peu la suite. C'est l'histoire d'un secret. Quel secret se cache à l'ombre du jacaranda, l'arbre fétiche de Stella? Eh bien, il faudra à son ami Milan des années pour le découvrir, des années pour percer les secrets et les silences du Rwanda, dévasté après le génocide des Tutsis. Donc, en rendant leur parole aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude et trouveront la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu. Donc, c'est une histoire sur 4 générations. Et avec douceur, Gaël Faye nous raconte l'histoire terrible d'un pays qui s'essaie malgré tout au dialogue et au pardon, comme un arbre, qui se dresse entre ténèbres et lumière, le jacaranda, célèbre l'humanité paradoxale, aimante et vivante. Voilà, Gaël Faye, Jacaranda, chez Grasset. À lire.
Voilà. Ça, c'est pas mal, ça aussi. Eh ben, moi, je vais parler de deux bandes dessinées. Alors, une bande dessinée en lien un petit peu avec celle que t'avais évoquée, là, sur la science-fiction. Parce que moi, quand tu m'as parlé bande dessinée et science-fiction, j'ai tout de suite pensé à une série qui date quand même, c'est Valérian et Laureline.
Oui, bien sûr, ils en parlent dans l'expo.
Et c'est de Pierre Christin et de Jean-Claude Mézières.
Ouais.
Là, cette fois-ci, on a des voyages dans le temps, dans l'espace. Et donc, c'est des petites histoires, quoi, c'est des petites histoires. C'est des histoires à chaque fois qui sont super intéressantes, et moi je trouve cet univers.
Ah ouais, Valérian et Laureline, c'est hyper.
Ah oui, oui, c'est super, c'est carrément génial. C'est vrai que ça date quand même, hein, puisqu'il y a eu 23 albums.
Oui, mais je crois que c'est une des premières BD de science-fiction française.
Voilà, on est toujours dans notre thème.
Ah ouais, on est dans le thème, parce qu'on a parlé de Mébius, de Druillet, et puis de l'atome.
Voilà. Et puis, une autre bande dessinée. Alors là, c'est une série qui vient de commencer, qui s'appelle La Couronne de France. Alors là, c'est un peu plus historique. Mmh. Ah voilà, je reviens à mes amours. Hein,
c'est pas grave.
De Pécaud. Donc là, on va suivre finalement l'histoire de quelques rois. Donc là, pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont parus. La série, elle est prévue en... Je me trompe pas, il doit y avoir 5 tomes, 6 tomes à peu près, puisque on commence avec Philippe Auguste et on termine en 1774 à peu près. Mmh. Donc une sélection de rois et... cette histoire, ça nous permet comme ça d'apprendre un petit peu mieux les personnages de leur réalité. Et puis il y a un fil conducteur. Il y a ce qu'on appelle un charbonnier qui serait venu, qui guiderait finalement les rois à prendre les bonnes décisions et qui châtierait aussi ceux qui prendraient les mauvaises décisions. Donc voilà, c'est super bien fait. Les bouquins sont magnifiques. Donc on a 2 histoires à chaque fois à l'intérieur et c'est carrément génial.
Cool.
Voilà.
Ça s'appelle comment, tu nous rappelles le titre?
La Couronne de France.
La Couronne de France. Merci.
Ça. La Couronne de France, tout simplement. Voilà. Un petit morceau de musique.
Mais oui. Ah. Eh, je sais.
Eh.
Tu veux nous apporter du soleil.
Eh oui.
Geek Mafia sur
Radio. Eh oui. On va écouter Mano Negra et Malavida.
Vous êtes bien sur Radio G.
101.5, la radio qui fait bon.
Soleil. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando.
Waouh, Manon Negra, super.
Eh, ça fait du bien, ça aussi. Hein.
On va parler musique maintenant.
Ouais.
Est-ce que tu nous mets un jingle ou pas?
Oh, bah alors, qu'est-ce que tu voudrais comme petit...
Non, c'est...
Oh, bah attends,
oui,
tiens
ou
celui-là.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Alors, je vais vous parler.
Comment
ça, c'est pour Romain. Je vais vous parler de musique. Je vais vous parler de trois groupes qui sont pas des groupes très connus, mais qui sont des groupes français à découvrir. Voilà. Que j'ai découvert récemment. Alors, Hangman Chair, le premier. Voilà. Seb, vas-y, n'hésite pas. Mets un petit peu de musique en fond. C'est un groupe de métal français. Vas-y, vas-y. Voilà. Pour faire découvrir un peu aux auditeurs, aux auditrices. Alors c'est excellent. Alors Hangman's Chair, c'est un groupe parisien qui fait, comme vous l'entendez, du heavy metal, du doom metal, un metal lent mais très très bon. Alors c'est pas des gars très positifs parce que je peux vous donner les titres des albums. Par exemple, This Is Not Supposed To Be Positive, Banlieue Triste,
oh.
A Loner,
oh.
Et Saddiction. Saddiction, donc, c'est le dernier album qui vient de sortir. Donc, c'est un, vous voyez, un mot valise entre sad, qui veut dire triste en anglais, et addiction.
Okay.
C'est vrai. Alors, c'est un super groupe français qui commence à avoir du succès à l'international aussi, partout en Europe, grâce au label Nuclear Blast qui vient de sortir le dernier album, Saddiction. Voilà. Et donc, c'est un groupe qui vient de s'installer durablement dans le paysage métal français et international. Ils existent maintenant depuis 2007, je crois. Ils ont sorti 6 albums, si je ne me trompe pas. Et c'est de mieux en mieux. Le dernier, la Saddiction, dont vous entendez un extrait, c'est vraiment excellent. En fait, c'est un peu un équilibre entre tous les styles qu'ils abordent dans leurs précédents albums. Mais on est vraiment sur, sur un métal... lent, avec du riff, mais une voix qui est très agréable à écouter.
C'est vrai. C'est le morceau, c'est Naïve.
Naïve, voilà, si vous voulez le réécouter.
Si vous voulez le réécouter. Deuxième groupe que tu voulais nous présenter.
Ouais, alors là, c'était un groupe parisien. Le deuxième groupe, c'est un groupe nantais.
Ah.
Ah ouais.
Alors ?
Ça s'appelle Stinky.
Stinky. Alors, je vais voir si je trouve quelque chose.
Oui, c'est un groupe plutôt de punk hardcore. Alors Solas,
ça change.
Ah oui, là on passe du heavy metal au punk hardcore.
Ah ouais, là c'est clair.
On passe de Paris à Nantes. Alors Solas, ça se traduit en français par soulagement, on peut dire. C'est le titre du quatrième album de Stinky, un groupe de hardcore nantais qui nous revient fort d'un nouveau visage. Au menu, changement de line-up, transition de l'ex-chanteuse Claire qui est devenue Claire et ouverture à d'autres styles qui permet à Stinky 2025 de coller aux influences de chacun de ses membres. Voilà, donc. C'est un groupe nantais qui fait du punk hardcore. On est au quatrième album, c'est ça. Ils ont commencé en 2015. L'album Soleil vient de sortir en 2025. Et honnêtement, je pense que si vous aimez le punk, si vous aimez le hardcore, vous allez adorer. Parce que c'est un groupe qui utilise sa musique comme une tribune, voilà, pour faire l'écho de certains combats qui leur tiennent à cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Voilà. On écoute un tout petit peu Seb. Évidemment, ça groove. Merci Seb. Troisième groupe, un groupe angevin. Après Paris, après Nantes, on va au Chabada.
Chabada.
Puisque, la semaine dernière, au Chabada, on a vu Scratch Massive. Donc Scratch Massive, c'est un groupe angevin de musique électronique qui était en résidence au Chabada. Et puis, je sais pas si vous le savez, mais à la fin des résidences, les groupes font des concerts gratuits. Donc on peut aller au Chabada découvrir leur musique ou redécouvrir leur musique. Donc Scratch Massive, c'est un groupe que j'avais connu il y a longtemps, que j'avais un peu perdu de vue. Et là, en fait, ils reviennent et en fait, c'est vachement bien. Alors, on est carrément dans un autre style. Là, c'est vraiment de la musique électronique qui peut être planante, qui peut être dansante. Visuellement, c'était très chouette. On peut en écouter un extrait si tu veux, Seb. We'll be right back. Donc j'ai dit musique électronique planante. Et là, on est complètement dedans. Alors, c'est pas que ça, hein, bien sûr. Hein. C'est aussi parfois très dansant.
Là, le morceau en question, c'est Inner Symphony.
Donc, c'est un duo de musiciens et DJ français, hein, avec Maud Geffray et Sébastien Chenu. Ils sont originaires de Saint-Nazaire et d'Angers. C'est bon, hein?
On va écouter ça là tranquillement et tu nous reparleras du groupe après, éventuellement.
C'est très très bon.
C'est très très bon.
Alors Scratch Massive s'est formé au début des années 2000, donc c'est un duo comme je le disais tout à l'heure. Premier album en 2003, Enemy and Lovers, c'est à ce moment-là que je les ai découverts avec Seeing is Believing, vachement sympa. Deuxième album Time en 2007, troisième album Nuit de Rêve en 2011, quatrième album Garden of Love en 2018, et donc cinquième album Nox Anima, apparaître en 2025. Un nouveau disque de 10 titres dont la sortie est prévue en janvier 2025, donc normalement il est sorti. Et donc ça se veut la bande originale d'un film imaginaire. J'aime bien ça.
Ouais, c'est pas mal.
Si vous aimez Kavinsky, par exemple, ouais. ça vous plaire. Après I See You Up Tomorrow, un premier single sorti en août 2024. En novembre 2024, il y a une collaboration qui est sortie avec le groupe Yel, la chanteuse Yel, sur le titre Des Choses. Voilà, et le clip est mis en ligne en novembre 2024. Et donc l'album Nox Anima à écouter.
Ah non, moi je trouve ça très très bon.
Ah, c'est excellent. C'est Scratch excellent. Massive, écoutez, ouais. Scratch Massive. En plus, c'est un groupe local. Et allez les voir en concert parce que visuellement aussi, c'est pas mal du tout. Je sais qu'ils seront en festival à Saint-Brieuc. Nous redonner le titre, Fred.
Alors celui-ci c'est Inner Symphony.
Hyper bien.
Il est hyper bien et j'ai beaucoup de mal à le couper.
Il faut pas.
Et ben voilà.
Jusqu'au bout.
Et ben on a été jusqu'au bout.
Jusqu'au bout du bonheur.
Voilà, tout à fait.
Bien chercher bonheur. Creature Shock Radio FM. Alors on veut faire des bisous à Paul, ouais. À Romain, à Eric et Marie, à Florence, à Pablo, tous ceux qui nous écoutent.
Tous ceux qui nous écoutent, Estelle, Benoît.
Et bien sûr,
Magdalene, etc.
Et donc les auditeurs nous envoient des petits messages.
Oui.
Alors, et pour nous dire qu'il y a un podcast, il faut écouter aussi sur le site de Radio G, Bande Geek Mafia en podcast et sur la page Facebook. Et puis aussi pour nous de proposer des titres de groupes français qu'on aime.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on a un auditeur.
Eric,
pour ne pas le citer.
Il nous dit, n'oublions pas l'ophophore.
Eh ben, écoutez.
Avec le fond et la forme.
Eh ben, on va pas l'oublier.
Du français bien écrit.
Bien écrit. Et on va l'écouter d'ailleurs.
Tout de suite.
Tout de suite. Maintenant.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Merci Eric pour cette proposition. Ouais. Le Fofora, effectivement, excellent groupe français.
C'est bien, c'est pas mal, c'est bien, ça, ça fait du bien. La cage à miel.
Ça débouche les cages à miel.
Tonton Z.
Alors, pour finir l'émission, je voulais vous parler d'un petit festival, ou d'un grand festival, selon, qui se tient à Nantes avec des groupes français. Donc voilà, on est toujours dans notre thématique Made in France. Frozen Fest 2025. Alors, Frozen Records, c'est un label de musique nantais, hein, qui édite régulièrement des super albums. Donc récemment, par exemple, Sang Froid, je vous en ai parlé, Grève Cult, voilà, et d'autres groupes incroyables dont je vais vous parler rapidement. Sorcerer, par exemple. Et donc, Frozen Records fête ses 5 ans. Et pour cela, ben, le label nous invite à fêter ça avec eux les 6, 7 et 8 juin 2025 au Ferrailleur à Nantes. Pour 3 jours d'une affiche 100% issue du label Frozen, des journées presque thématiques avec un vendredi hardcore, un samedi post et black metal moderne et un dimanche un peu plus old school et folk, tout en gardant chaque soir un dernier live de fermeture plus électronique pour se trémousser avant de rentrer. Voilà, donc du 6, 7 et 8 juin, donc on en reparlera certainement, mais allez écouter les productions du label Frozen Records, et en particulier, moi vraiment j'ai craqué sur Sorcerer, Sang Froid et Grave Cult, mais il y a plein d'autres groupes excellents, et on fait un petit coucou à Romain, puisqu'on va écouter La Femme avec Sakatella.
Et on veut vous dire tout simplement aussi à dans 15 jours.
Ouais, salut.
Salut, et merci de nous avoir écoutés.
Broma, ayúdame a sacarla de mi cabeza.
Sácatela.